L'avant-match.
Dans l'avant-match, voici Louis-Jean.
Notre prochain invité, c'est Louis-Jean, à qui on parle chaque lundi soir dans l'avant-match. Salut Louis, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi-même?
Ça va très bien, merci. Je veux juste te dire, avant qu'on jase du Canadien et de Dave Axtell, qui est l'entraîneur-chef congédié aujourd'hui par les Flyers, je veux juste rappeler aux auditeurs que toi, tu as la chance d'aller au Centre Bell pour ton travail presque à chaque jour, presque à chaque match, mais on a une belle promotion sur nos zones actuellement, puis je l'ai pas fait dans mon intro, puis j'ai peur de manquer de temps, donc je te demande 30 secondes, juste pour que je rappelle aux auditeurs d'aller s'inscrire, Louis, sur la page concours du FM 93, pour pouvoir mériter leur place comme finaliste, et à la mi-janvier, on va faire l'attribution des 20 places, les 20 chanceux qui vont nous accompagner pour jouer un match de hockey amical sur la patinoire du Centre Bell le 2 février prochain. Ça va se faire après le match présenté en après-midi contre les Devils. Pendant que tout le monde va se retourner à la maison, nous, on va descendre dans les sous-sols du Centre Bell pour avoir joué un match de hockey amical. Ça va être bien le fun. Merci aux gens de Coors Light et de Boston Pizza. Louis, le Canadien va bien. Et quand ça va bien, souvent, il n'y a pas d'histoire. Par contre, c'est peut-être le moment le plus important pour Marc Bergevin pour essayer d'améliorer son équipe s'il veut l'améliorer en vue d'une participation future en séries éliminatoires. Parce que quand ça va mal, moi j'ai l'impression que quand ça va mal, t'appelles les DG adverses puis ils disent Wow, un instant, là, t'es dans le trouble, toi mon homme, tu vas payer plus cher. Quand ça va bien, t'as l'air plus honnête, on dirait.
Oui, exactement. Et c'est drôle, la valeur, le prix n'est pas le même. Le prix du pain puis du beurre puis du lait, normalement, à l'épicerie, il est pas mal. Écoute, ça varie, là. Tu vas me dire que ça a monté le prix de la facture d'une épicerie au cours des dernières années. Et ça va continuer, malheureusement, de monter cette année. Mais habituellement, c'est toujours pas mal. Ça, on a une bonne idée de ce qu'on va payer. Mais c'est drôle, quand ça va pas bien, c'est plus cher. Si tu veux aller chercher un joueur, t'as besoin d'un défenseur parce que clairement, t'as des blessures ou t'as des carences ou il y a des joueurs qui produisent pas comme tu l'aurais souhaité, ce qui était clairement le cas du Canadien l'année passée. Quand t'appelles les équipes et puis ils voient ce qui se passe, et puis surtout quand c'est un marché comme Montréal, tout le monde sait très, très bien. Moi, il y a plusieurs directeurs généraux qui le disaient l'année passée. Je me sens mal pour Marc qui dit « Écoute, la tempête à Montréal, ça doit être l'enfer actuellement. » Combien de GM, combien de DG m'ont dit ça quand ça allait vraiment pas bien à Montréal? Mais en même temps, c'est pas comme s'ils vont y faire une faveur non plus pour dire « Bon, regarde, je vais t'aider, là, t'as besoin de ça, puis à un moment donné, tu me rendras l'appareil. » C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Ligue nationale. Et quand ça va pas bien, souvent les équipes disent « OK, lui a besoin d'aide, alors si je lui tends une perche, ben le prix va être là en même temps. » Alors, t'as parfaitement raison de dire que là, si jamais Marc Bergevin décide d'appeler les Blackhawks, pour qui ça va pas bien, ou d'appeler les Kings de Los Angeles, saison désastreuse, ou même les Blues de Saint-Louis, à peu près tout le monde est disponible actuellement. C'est drôle, soudainement, peut-être que le prix par rapport à l'année passée a complètement changé.
Louis, as-tu l'impression que Marc Bergevin, en date d'aujourd'hui, regarde son équipe, 39 points de classement, 33 matchs de jouer. Si les séries débutaient ce soir, le Canadien y entrerait avec les Bruins, d'ailleurs l'adversaire de ce soir, comme meilleur deuxième. Et là, il se dit, j'ai fait un point de presse l'année dernière avec Jeff Molson au mois d'avril pour essayer de calmer un peu la tempête d'insatisfaction. Puis là, j'avais dit aux gens qu'on allait faire un 8-7. Il n'a jamais utilisé l'expression « reconstruction ». Mais là, le reset, finalement, le bouton, il est devenu rouge plus vite, puis ça va bien, puis il y a des victoires, puis 3 victoires en 11 soirs contre les Sénateurs. Ils ont battu la Caroline, ils ont battu Chicago, des matchs où, si tu veux participer aux séries, ben tu peux pas échapper des matchs contre des équipes qui vont manquer les séries. As-tu l'impression que lui, il regarde le 25 février, puis il se dit, oh, un instant, là, le reset, là, il y a des gens qui vont avoir des attentes envers nous. Peut-être pas des attentes de Coupe Stanley, mais à tout le moins des attentes de séries, on va dire ça comme ça, en date d'aujourd'hui. Est-ce que lui... son plan vient de changer, puis ça va y prendre... Là, je donne un exemple. Évidemment, c'est pas le joueur que je vise, mais juste pour que tu comprennes puis que nos auditeurs comprennent. As-tu l'impression que ça va y prendre un Thomas Vanek 2019?
C'est drôle. Je vais te répondre autrement. Je pense pas que le plan a changé. Okay. Je pense que le plan a toujours été un peu flou en ce sens-là. Puis c'est pas parce qu'on n'était pas préparé. C'est pas parce qu'il a pas bien fait son travail. Je me souviens, avant le début de la saison, de lui avoir posé la question, Marc, qu'est-ce qui va, pour toi, comment on va qualifier cette saison d'une saison à succès? Oui. Est-ce que c'est automatiquement et assurément les séries éliminatoires? Et il était pas prêt à aller là. Okay. Je pense qu'il voulait vraiment avoir une équipe qui allait travailler, qui allait se battre à tous les soirs. Et en général, Il y a eu le Minnesota, il y a eu les Oilers à Edmonton. Il y a eu des matchs si longs, on peut dire, regarde, le Canadien n'était pas là. Il y a eu, je dirais, les Blackhawks de Chicago aussi, il y a à peu près quoi, deux semaines, même pas, où le Canadien a eu un très, très mauvais match, mais a trouvé une façon de gagner c'est grâce ça. À Carey Price.
Exact.
Mais je te dirais que c'est difficile à répondre à cette question-là, dans le sens que je pense que lui, il était un peu sur un « wait and see ». Attendons voir et on va s'ajuster. Mais il savait très, très bien que lui, dans la vente qu'il a faite dans l'explication qu'il avait donnée au propriétaire en disant « Voici ce que je vais faire cette année. On fait pas de reconstruction, je crois pas à dedans. Puis on va tout faire pour faire les séries. Et l'équipe va être nettement meilleure que ce que tu as vu l'année passée. » L'année passée, là, c'était vraiment une erreur de parcours. Et si ce ne l'est pas, essentiellement, ben lui, il allait perdre sa job cette année. C'est clair que si on voyait une deuxième saison moribonde comme l'année passée, ben malheureusement, Marc Bergevin n'était plus là à la fin de l'année. Il n'aurait peut-être pas duré toute la saison non plus. Alors, je pense que non seulement il a convaincu le propriétaire, à qui on a parlé, Renaud Lavoie et moi, récemment lorsqu'on était en Géorgie pour les réunions des gouverneurs, mais là, le propriétaire, il voit que, bon, on a des jeunes qui poussent, on a des vétérans qui sont capables de contribuer, on a un Carey Price qui est certainement pas aussi bon qu'il est capable de l'être. Alors, d'une certaine manière, quand tu regardes où le Canadien se trouve au classement, ben c'est quand même encourageant. Tout ça pour dire que je pense que Marc Bergevin sera peut-être pas agressif dans le sens qu'il se dit qu'il faut absolument que je fasse une transaction pour rentrer maintenant, puis peut-être aller gagner une ronde des séries. Mais il va regarder peut-être plus à moyen terme pour dire je vais essayer de faire une transaction pour aider mon équipe. Parce que c'est une équipe qui a travaillé toute l'année. Et si on est en position de s'améliorer puis de rentrer en série, je vais le faire. Mais je vais faire une transaction aussi qui va m'aider pour l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Mais ultimement, Marc Bergevin, il veut essayer de prendre des décisions qui sont bonnes pour le moyen et le long terme de l'organisation. Mais ce qu'il veut faire présentement, c'est de démontrer on est capable de participer aux séries, on est capable de se battre. Et lui, d'une certaine manière, pour démontrer qu'il est capable de faire le ménage et de corriger des erreurs qui ont été faites. Il n'a pas eu peur, dans le fond, cette année, de s'exposer et de les montrer, les erreurs qu'il a faites.
OK. Est-ce que un duel Price et Halak au Centre Bell, ça fait encore... est-ce que ça alimente encore les discussions ou ça, c'est une histoire de 2008?
Non, c'est une histoire de 2008. La seule discussion que ça alimente, c'est que ça démontre probablement, selon moi, que Yaroslav Halak, au cours de peut-être les 10 dernières années, est le meilleur réserviste de la Ligue nationale de hockey, sans contredit. Ce gars-là, à chaque fois qu'on l'a enterré, et on l'a enterré souvent, là, il a été enterré partout, ce gars-là. Tout le monde dit, regarde, écoute, il a été envoyé des mineurs par les Islanders de New York et tout ça. On pensait que c'était terminé. Il y a eu des blessures et tout ça. Il produit, ce gars-là, a du caractère comme ça ne se peut pas d'avoir eu la carrière qu'il a et d'avoir l'impact qu'il a encore aujourd'hui. Alors, oui, je pense que pour les deux joueurs, il n'y a aucun doute que Price dit « Je ne veux pas perdre contre du gars-là » et vice-versa. Mais il n'y a plus personne qui se dit « Imagine-toi si on avait eu Halak versus Price, etc. » Ça, selon moi, ce débat-là, ça fait longtemps qu'il est mort.
OK, mais quand on regarde les stats, évidemment, Louis, j'étais un des grands défenseurs dans la région de Québec en 2010 ouais. de Carey Price. Fait que j'essaierai pas de relancer le débat pour savoir si le Canadien a gardé le bon joueur, le meilleur des deux gardiens. Moi, j'aurais gardé Carey Price. Par contre, quand on regarde les stats des deux gars, je m'excuse, mais ça se ressemble.
Ça se ressemble, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, tu sais, il y a premièrement de jouer toute ta carrière et de toujours être vraiment sous les feux des caméras, sous les feux de la rampe, tout ça, tout le temps. Selon moi, ça pèse. Parlez-en à Patrick Roy qui est dans votre ville. Je veux dire, à Québec, Patrick, m'amener a quitté Montréal parce qu'il trouvait que ça devenait lourd, il trouvait que ça devenait un peu ridicule, l'attention qu'il avait sur lui tout le temps. Un bon match, et il était le meilleur de toute l'histoire, et un mauvais match, et là, finalement, on remet en question toutes sortes de choses sur Patrick Roy. Je pense que ça, là, sincèrement, ça ajoute des années au compteur. Quand tu es un joueur qui passe une carrière dans un gros marché, particulièrement comme un marché à Montréal, particulièrement dans la position de gardien de but, pour moi, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je vais dire ceci. Est-ce que les statistiques devraient être meilleures à Carey Price? Aucun doute. Est-ce qu'il a perdu des années en raison de blessures ou est-ce qu'il a perdu des années parce qu'il y a eu des contre-performances, parce qu'il était peut-être pas à la hauteur? Oui, il n'y a aucun doute. Ce soir, avec une victoire, ce sera sa 300e en carrière, ce qui est quand même impressionnant. Tous avec les Canadiens de Montréal. Mais il devrait peut-être en avoir plus. Mais d'un autre côté, Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si ça existe encore, mais ESPN, le magazine, t'as-tu déjà lu ça?
Oui.
Il y avait un article qui avait été écrit il y a, ça doit faire 7-8 ans de ça. Et sur la page Contispice, un magazine qui est vendu partout dans le monde, mais c'est un magazine vraiment le tirage important, c'est aux États-Unis. Et sur la page Contispice du magazine, super belle photo, c'était Carey Price devant la cage des Canadiens de Montréal pendant un hymne national. Alors, vraiment, la lumière est tamisée dans le Centre Bell, mais il y a le spotlight sur lui. Et ça le titre était « The Loneliest Man in Sports ». L'homme le plus... comment on peut traduire? L'homme le plus seul,
ouais.
Le plus... Tu sais, dans le sport professionnel.
Solitaire,
alors, c'est une traduction
ouais.
libre. Ouais. Mais je pense que ça explique bien la position de gardien à Montréal, à quel point tu es vraiment souvent laissé à toi seul, à quel point tu as une pression énorme, autant sinon plus que dans les gros marchés du monde pour des corps arrière de football ou pour des joueurs de soccer dans les plus grosses ligues de soccer au monde. Pour moi, je pense que ça use et c'est très difficile et ça pèse pour certains joueurs.
Je vais aller donner les stats parce que je suis convaincu que dans la voiture, il y a des gens qui ont dit « Ah ouais Dan, tu dis que ça se ressemble, mais ça se ressemble à quel niveau? » 299, 209 et 60 pour Price avec une moyenne de 2,48 et un pourcentage d'arrêt de 919. Et pour Halak, c'est 241, 155 et 50. Victoire-défaite et défaite en prolongation. Moyenne de buts alloués, 2,50 versus 2,48 pour Price. Et pourcentage d'arrêt, 916 contre 918. Mais c'est-tu quoi? Tantôt, tu as dit peut-être que Price aurait dû avoir plus de victoires. Oui, mais en même temps, c'est pas là-dessus, moi, que je veux m'arrêter. Louis, je pense que Price aurait dû gagner plus de séries depuis le début de sa carrière.
Oui, ben c'est ça. Mais quand je parle de victoires, je parle de ça. Okay. Je parle en saison régulière, selon moi. Il devrait quand même y en avoir plus. Mais particulièrement en série, tu sais, là, t'es jugé, là, les grands sont jugés par est-ce que t'as volé une série? Pas juste un match. As-tu volé une série? Et quand est-ce qu'on a dit ça de Carey Price? Je dis vraiment, on l'a vu dominer sur les niveaux internationaux. On l'a vu aussi avec de très, très bonnes équipes. Souvent, l'argument, c'est, ben oui, mais c'est sûr, mais quand t'as Crosby, puis t'as Taves, puis t'as Tavares, puis t'as, tu sais, tous ces excellents joueurs-là, maintenant, n'importe qui pourrait être bon. Ça, c'est l'argument toujours très, très facile. Je suis pas prêt que je croie cet argument-là, je suis prêt à l'acheter. Mais pour moi, là où il y a encore vraiment des preuves à faire, pour moi, Carey Price, c'est il y a pas eu et il y a actuellement pas une grande équipe non plus. Je pense qu'on s'entend là-dessus, là.
Oui.
Il doit être excellent tous les soirs parce qu'il n'y a pas une équipe qui peut compétitionner avec les grandes équipes, non seulement dans la Ligue, mais particulièrement dans l'Est et particulièrement même dans sa propre division. Donc, il faut qu'il fasse ce travail. Mais là où vraiment le monde va le juger ultimement et son héritage, c'est as-tu été capable de faire la différence? As-tu été capable de gagner une série? As-tu été capable de faire comme un Jean-Sébastien Giguère en, c'est quoi, 2003, avec les Ducks d'Anaheim qui lui gagne le Conn Smythe dans une cause perdante? En finale de la Coupe Stanley, il avait été extraordinaire tout au long des séries, il avait découragé les adversaires. Et c'est ça qu'on voudrait voir de Carey. C'est dur à faire. Il y a peu de monde qui sont en mesure de le faire. Mais vraiment, montre-nous au moins que tu peux gagner une série. Montre-nous que tu vas mettre l'équipe sur tes épaules et que tu vas être capable de décourager un adversaire un peu comme un Hasek faisait si souvent dans le temps avec les Sabres de Buffalo.
Ouais, on a l'impression qu'il n'est plus le gardien intimidant qu'il a déjà été. On dirait que surtout avec sa mauvaise année.
Ça peut revenir, par exemple. C'est ça, mais on peut revenir.
Quand
on parle de Price, on parle souvent au passé de oui, ses trophées, tout ça en 2015, etc. C'est vrai, il doit le prouver, mais moi, je ne suis pas de l'avis, comme certains autres, que c'est terminé, qu'il ne sera pas capable de le ramener. Mais, à un moment donné, il faut que tu le prouves. Puis cette année, il y a eu des matchs, les Hurricanes de la Caroline la semaine passée, il accorde un mauvais but. Tu sais, c'est ça qu'on voyait moins souvent avant. Il accorde parfois le mauvais but où il devine. C'est arrivé encore samedi en fin de semaine contre les Sénateurs d'Ottawa. Des fois, on dirait qu'il devine alors qu'avant, il était sûr. Le mouvement qu'il allait faire, c'était une certitude qu'il n'allait pas être battu.
Exact.
Des fois, tu te dis, crime, il me semble, il se faisait pas battre là-dessus avant. Mais par contre, moi, je pense qu'il est capable de le retrouver. Et je pense que peu à peu, ça commence à revenir, là, ce genre de swagger-là, cette confiance-là interne qu'il y avait. Je pense que tranquillement, ça s'en vient, mais pour vraiment conquérir et prouver qu'il est un des grands, il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes en série. C'est là que tu es jugé ultimement.
Ça prend de la confiance, puis j'ai l'impression que tu en as plus envers lui que lui-même en a pour la game. Merci, Louis.
Elle commence à revenir, par exemple. Les signes sont là.
OK, merci, Louis. Bonne soirée.
Merci, joyeuse fête.
Ah, c'est vrai, c'est la dernière fois qu'on se parle cette année. On va se reparler au début janvier, c'est vrai, j'avais oublié. Un gros merci à toi. Ouais.
Pareil, ben on se reparle en 2019. Salut, mon chum.
Joyeuse fête, salut. Louis-Jean, animateur à TVA Sports.